Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 17 janvier 2023. Avec vous, Eric Maniakiza, voici d'abord le sommaire. L'armée somalienne reprend au Shebab un port stratégique qu'il tenait depuis plus de 10 ans. L'ONU exige la libération de femmes enlevées au Burkina, tandis que les recherches sont en cours. Au Sénégal, un nouvel accident routier fait 22 morts. Le gouvernement est interpellé sur les règles. En Guinée équatoriale, décès en prison d'un opposant de nationalité espagnole. Au Maroc, violent heurts lors de l'évacuation de migrants originaires d'Afrique subsaharienne à Casablanca. Visite hier à Kiev d'une haute responsable de la diplomatie américaine. Ici aux États-Unis, le président Biden accuse les républicains de démence budgétaire. Un policier londonien reconnaît 24 viols et de multiples agressions sexuelles sur une période de 17 ans. Et des pays réclament la levée de récentes sanctions punitives israéliennes contre les Palestiniens. La CAF ouvre une procédure contre le Maroc qui s'est retiré du CHAN 2022. C'est dans les sports avec Yacouba Ouédraogo. Les 1% des personnes les plus riches au monde ont accaparé près des deux tiers des 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses créées depuis 2020. Nous en parlons dans la page économie, mais d'abord le journal. Victoire importante de l'armée somalienne face au groupe Al-Shabaab. Le Premier ministre et des sources sécuritaires ont annoncé la reprise aux islamistes radicaux du contrôle d'un port stratégique qu'ils occupaient depuis plus d'une décennie. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est une victoire historique. Les braves membres des forces armées nationales ont libéré la ville portuaire stratégique de Harar Dere, a déclaré lundi le premier ministre Hamza Abdi Barre. 2023 sera l'année de la liberté et de l'éradication des Shebab et l'intégralité de notre pays sera libérée, a-t-il ajouté dans un communiqué. Les informations que nous avions indiquées que les terroristes utilisaient la ville côtière pour s'approvisionner, a précisé de son côté Hussein Ahmed, ministre des Postes, présent sur le front. Le ministre ainsi que des sources sécuritaires ont affirmé que la ville avait été reprise sans aucun combat, les Shebab s'étant retirés avant l'arrivée des forces gouvernementales. Harar Dere, ville portuaire située à environ 500 km au nord de la capitale Mogadiscio, était contrôlée depuis 2010 par ce groupe affilié à Al-Qaïda. Des sources militaires ont ajouté que le village de Ralkad, situé comme Harar Dere dans l'état de Galmudug, avait également été repris lundi au combattants islamistes sans combat.
Des voix s'élèvent dans le monde pour condamner l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes la semaine dernière au Burkina Faso. L'ONU a exigé lundi leur libération immédiate et inconditionnelle. Mohamedou Ouf.
Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les femmes enlevées, appelant les autorités burkinabées à mener rapidement une enquête efficace, impartiale et indépendante pour identifier les responsables et leur demander de rendre des comptes. La France a de son côté condamné l'enlèvement de ces femmes avec la plus grande fermeté et appelé à leur libération immédiate tout en réaffirmant sa solidarité ainsi que son engagement aux côtés du Burkina Faso. Alors qu'elles étaient sorties à la recherche de fruits sauvages, ces femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des groupes armés terroristes dans deux localités au nord et à l'ouest de la commune d'Arbinda, a indiqué lundi le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo. Tous les moyens sont mis en œuvre sur le plan terrestre et aérien pour les retrouver, a précisé une source sécuritaire. Arbinda se situe dans la région du Sahel, une zone sous blocus de groupes djihadistes, difficilement ravitaillés en vivres.
Une collision entre un car et un camion a fait 22 morts ce lundi au Sénégal, où les transporteurs résistent à des mesures annoncées une semaine plus tôt après un autre accident où plus de 40 personnes avaient péri. Le Premier ministre Amadou Ba, qui s'est rendu sur les lieux près de la localité d'Osakad, s'est dit résolu à appliquer les décisions prises après l'accident du 8 janvier, estimant qu'une fois de plus, le mépris de la réglementation avait amplifié les dommages. Le car accidenté avait une capacité de 32 places, mais transportait 47 passagers, a-t-il dit. Un opposant au pouvoir en Guinée équatoriale, disposant aussi de la nationalité espagnole, est décédé dans une prison de ce pays où il était détenu depuis son enlèvement présumé fin 2019 au Soudan du Sud, ont annoncé ce lundi son mouvement et Madrid. Julio Obama Mefuman est décédé dans un hôpital de Mongomo des suites d'une maladie, a affirmé pour sa part sur Twitter le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères. La police marocaine a interpellé ce lundi 6 migrants originaires d'Afrique subsaharienne accusés d'être impliqués dans des violences envers des agents de la force publique. C'était lors d'une opération d'évacuation de camps de migrants à Casablanca, rapportent les médias locaux. La justice britannique a accepté ce lundi d'examiner en appel le projet du gouvernement britannique d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le point avec Timothée Donangmaï.
C'est un revirement de la Haute Cour de Londres. Le mois dernier, elle avait donné son feu vert à ce projet hautement controversé que le gouvernement conservateur de Rishi Sunak veut déployer dès que possible en jugeant le dispositif légal. Mais hier lundi, les deux juges qui avaient rendu ce jugement ont accepté la saisine de la cour d'appel par plusieurs requérants et l'association Charity Aid qui apporte un soutien juridique aux demandeurs d'asile. Parmi les points qui seront soumis à la cour d'appel figure la question de savoir si le projet est injuste de manière systémique et la question d'empêcher que les demandeurs d'asile soient expulsés vers un pays où ils risquent d'être persécutés. Aucune date n'a encore été fixée pour cette audience en appel. La lutte contre l'immigration illégale fait partie des priorités du gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak. Plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche à bord de petites embarcations en 2022, un nouveau record lors d'une année marquée par la mort de 4 d'entre eux dans le naufrage de leur bateau. Espérant décourager les traversées, le gouvernement avait conclu sous Boris Johnson un accord avec Kigali prévoyant des expulsions vers le Rwanda.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden a jugé ce lundi que l'opposition républicaine, qu'il accuse de dépenser sans compter, souffrait de démence budgétaire. J'ai réduit le déficit l'an dernier de 350 milliards de dollars et cette année, le déficit fédéral est en baisse de plus de 1000 milliards de dollars. C'est en fait, a-t-il dit lors d'une rencontre à mémoire de Martin Luther King. Monsieur Biden a lancé une attaque en règle des projets économiques de l'opposition qui contrôle désormais la Chambre des représentants. Le secrétaire d'État adjoint Wendy Sherman a conduit ce lundi une délégation dans la capitale ukrainienne. Elle a rencontré le président Volodymyr Zelensky et d'autres hauts responsables ukrainiens pour réaffirmer l'engagement fort et inébranlable des États-Unis envers l'Ukraine et sa défense contre l'agression non provoquée de la Russie, a déclaré le porte-parole du département d'État Ned Price dans un communiqué. Rosine Munezer.
Madame Sherman a notamment rencontré le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, pour discuter de l'aide à apporter pour renforcer le dispositif de sécurité en Ukraine, pour l'économie et pour développer un partenariat commercial bilatéral durable avec les États-Unis. La délégation a également entendu de jeunes Ukrainiens qui ont adapté leurs entreprises et leurs activités pour soutenir leurs concitoyens, tout en envisageant le redressement et la reconstruction de l'Ukraine, selon le communiqué du département d'État. Les affrontements se sont intensifiés en Ukraine au cours du 11e mois de guerre. Samedi, un missile a éventré un immeuble à Dnipro, faisant au moins 40 morts et 75 blessés. Fin décembre, M. Zelensky a rendu visite au président Joe Biden à la Maison-Blanche, où il a plaidé en faveur d'une aide militaire et économique d'urgence de quelque 45 milliards de dollars pour l'Ukraine.
Au Royaume-Uni, un agent a reconnu ce lundi au total 24 viols et de nombreuses agressions sexuelles sur une période de 17 ans, déclenchant de vives critiques à l'encontre de la police londonienne. C'est l'une des affaires les plus choquantes impliquant un policier selon le parquet britannique. Au nom de la Metropolitan Police, je veux présenter des excuses aux femmes qui ont souffert entre les mains de David Carrick, a déclaré la commissaire adjointe Barbara Gray. Cette affaire ravive le souvenir qui avait choqué le pays de la mort d'une londonienne de 33 ans, violée et tuée par un policier en mars 2021. Une quarantaine de pays ont réclamé ce lundi la levée de sanctions, notamment financières, adoptées par Israël contre l'autorité palestinienne en représailles d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU demandant un avis à la Cour internationale de justice sur l'occupation israélienne de territoires palestiniens. Une porte-parole du secrétaire général de l'ONU a répété la profonde inquiétude de Antonio Guterres concernant ces récentes mesures israéliennes contre l'autorité palestinienne, soulignant qu'il ne devrait pas y avoir de représailles en lien avec la Cour de justice internationale.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Mohamedou Oumfa.
Les ministères camerounais en charge du commerce et des pêches et la société sud-africaine Samaki Fisheries ont signé le 13 janvier à Yaoundé un protocole d'accord pour la promotion de l'aquaculture au Cameroun. La société sud-africaine s'engage à introduire sur le marché camerounais de nouvelles variétés des produits halieutiques de bonne qualité et à promouvoir le développement de la pisciculture locale. La valeur des exportations turques vers l'Afrique a atteint un niveau record de 21,8 milliards de dollars en 2022, a rapporté l'agence de presse turque Anadolu le 11 janvier. Citant les données de l'Union des exportateurs de Turquie, Anadolu précise que ce montant est en hausse de 12,3% par rapport à 2021. L'Égypte, le Maroc, la Libye, l'Algérie et l'Afrique du Sud ont été les principales destinations des dites exportations. Les 1% des personnes les plus riches au monde ont accaparé près des deux tiers des 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses créées depuis 2020, soit près de deux fois plus que les 99% restants, a révélé lundi l'ONG Oxfam dans un nouveau rapport. Taxer les ultra-riches et les grandes entreprises est une solution majeure pour sortir des crises qui se succèdent et se superposent depuis 2020, a proposé Gabriella Boucher, directrice générale d'Oxfam International.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Début ce mardi des matchs de la deuxième journée du CHAN 2022.
Oui, le pays hôte, l'Algérie, voudra arracher sa qualification ce soir à 19h temps universel face au Mozambique qui veut se relancer après son match nul inaugural 0-0 devant l'Éthiopie bien avant. À 16h temps universel, opération relance également pour la Libye qui a perdu lors de sa première sortie face aux Fenech locaux. Les derniers matchs de la première journée disputés hier lundi ont été palpitants. Dans le groupe E, le Cameroun a battu sa voisine de la République démocratique du Congo 1-0. Un coup de tête de Jérôme Gomme en seconde période a scellé la victoire des Lions indomptables locaux. Dans le groupe D, le Mali et l'Angola se sont neutralisés 3-0 au terme d'une rencontre renversante.
La CAF a ouvert une procédure contre le Maroc qui s'est retiré du tournoi.
La commission d'organisation du CHAN a saisi l'instance judiciaire compétente de la CAF au sujet de l'absence du Maroc au match prévu dimanche à Constantine contre le Soudan. C'est ce qu'a annoncé l'instance panafricaine. Les Lions de l'Atlas ont annoncé vendredi qu'ils ne prendraient pas part à la compétition car n'ayant pas eu l'autorisation de poser leur avion directement à Constantine en raison des tensions politiques entre l'Algérie et le Maroc. Jusqu'ici, la CAF n'avait pas réagi à cette attitude du Maroc. Comme prévu dimanche, le Soudan s'est présenté au coup d'envoi du match et l'arbitre a constaté l'absence du Maroc. Les Lions de l'Atlas encourent des sanctions pouvant aller jusqu'à 150 000 dollars d'amende et l'exclusion des deux prochaines éditions du CHAN. Comme conséquence de ce retrait marocain, le groupe C va se jouer avec trois équipes, Madagascar, le Ghana et le Soudan. Les deux premières équipes se qualifieront pour la phase à élimination directe.
NBA, pour finir Yacouba, Jason Tatum envoie du rêve lors du MLK Day. Curry ranime les Warriors.
Avec 51 points pour la 7e victoire consécutive de Boston, Jason Tatum a dicté son récital lors du Martin Luther King Day, permettant aux Celtics de s'imposer 130-118 chez les Hornets. Intraitable, les Celtics caracolent en tête à l'Est devant les Bucks, tombeur des Pacers 132-119. Cleveland a battu la Nouvelle-Orléans 113-103. À New York, les Raptors ont survécu à une prolongation arrachée par un dunk pour finalement s'imposer 123-121. À Washington, les Warriors ont enfin retrouvé de la cohérence et de la solidité après 4 défaites embarrassantes en 5 matchs pour vaincre les Wizards 127-118. Stephen Curry a inscrit 41 points. À Atlanta, les Hawks ont engrangé une 3e victoire d'affilée aux dépens de Miami 121-113.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza, place au dossier du jour. Dans l'est de la RDC, le bilan de l'attentat à la bombe improvisée de ce dimanche dans une église à Kassindi, dans le territoire de Beni, est passé à 14 morts et 63 blessés. Deux suspects de nationalité kényane ont été arrêtés. L'un est sérieusement blessé. Les enquêtes se poursuivent. Pour plus de détails, Eddie Isango, adjoint à Beni, le porte-parole de l'armée congolaise dans ce secteur, le capitaine Anthony Mwalushai.
D'abord, il faut savoir que le bilan a évolué. Et hier, on parlait de 10 morts du côté des populations. Mais aujourd'hui, le bilan est revu à la hausse. Il y a 14 de nos compatriotes qui ont perdu la vie et du côté des blessés, nous avons enregistré maintenant 63 blessés. Et du côté kamikaze, nous avons un suspect qui a été parmi les blessés et nous sommes en train de l'identifier parce que pour l'instant, il ne parle pas, il est blessé grave. Il a été pris en charge par l'armée à travers les services de santé et nous prions le bon Dieu pour qu'il les garde encore à vie pour que nous ayons encore d'autres informations sur cette attaque. Alors, il faut dire que toujours du côté des enquêtes, l'armée et les services de sécurité ont évolué positivement avec les enquêtes. Il y a d'autres suspects qui ont été interpellés par les services de sécurité, y compris quelques membres de la paroisse où il y a eu vraiment l'attentat. Selon les témoignages que nous sommes en train de recevoir sur terrain, nous pensons que dans les heures qui suivent, nous allons encore arrêter d'autres suspects.
Vous accusez les ADF pour cet attentat, mais en même temps, vous parlez de membres de la paroisse qui ont été arrêtés. Ça veut dire que ces membres de la paroisse seraient complices, d'après vous?
Non, c'est trop tôt de dire complices, mais quand parmi les enquêtes, il y a toujours des suspects et aussi des gens qui peuvent vraiment témoigner. Vous êtes dans une urique, ce sont les gens qui ont vécu l'événement et même les services de gardiennage qui assurait la sécurité de fidèles, qui a été aussi interpellé. Et les gens qui ont travaillé pendant ces heures-là sont en train d'être auditionnés. Donc tout le monde qui de l'un ou de près a participé à cette culte, pour l'instant, on est en train d'auditionner pour en savoir plus. Mais le suspect a été déjà arrêté hier, le sujet kenyan. Et aujourd'hui, nous avons identifié parmi les victimes un autre suspect, mais qui est gravement blessé. Nous pensons vraiment qu'avec les temps et les soins qu'il va recevoir, et il peut se rétablir et répondre à nos questions.
Comment expliquer que vous avez mis en déroute, comme vous l'avez dit précédemment, les ADF, qui est un groupe qui a fait allégeance au groupe État islamique, et qu'aujourd'hui, vous avez mis un système de sécurité et qu'il y ait quand même eu cet incident-là?
Ben écoutez, c'est du terrorisme, même aux États-Unis, même partout dans le monde, on ne peut pas expliquer comment des milieux sécurisés, quelqu'un peut infiltrer. Et du terrorisme, c'est différent de la guerre classique. Donc, quelqu'un peut s'habiller en civil et pénétrer le fidèle, déposer une bombe. Nous faisons face à une guerre asymétrique. Et c'est vraiment différent de la guerre classique.
Capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée congolaise à Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Tchad, des habitants de la province du Logoné occidental, capitale économique, dénoncent ce qu'ils considèrent comme une ambiguïté autour de la création d'une zone économique spéciale au profit d'une société étrangère pour gérer le complexe de l'abattoir d'Omundu. Quelques 3400 hectares jusque-là exploités par des producteurs ruraux de plusieurs villages feront désormais partie d'une zone industrielle. Ces populations dénoncent un accaparement des terres. Correspondance d'André Kodmajingar, N'Djamena,
pour VOA Afrique.
Pour l'exploitation industrielle de ce complexe d'une capacité d'abattage de 250 bovins et plus de 5000 ovins caprins par jour, le gouvernement a réquisitionné 3400 hectares de terres cultivables. La gestion de cette zone sera confiée à une société étrangère. Les producteurs ruraux qui ne vivent que d'agriculture disent n'avoir pas été consultés.
On dit un développement sans toi et contre toi. Et aujourd'hui, c'est ça l'approche. On ne peut pas imposer un projet pour dire qu'on va prendre des terres des gens qui ne vivent que de l'agriculture. Et avec la densité de la population, mais ces gens-là vont aller où? Il faut d'abord vivre pour que le projet puisse te profiter.
Même la terre qui doit être arrachée actuellement, certains gens sont sélectionnés pour borner.
Pour le moment, la population de Kana n'est pas tranquille.
Les gens ont camouflé les choses sans informer les chefs de village. En même temps, ils ont signé un papier où personne n'est au courant de rien. Maintenant, toute la population s'est levée contre le chef de canton. Nous, on accepte l'installation des usines, mais avec certaines conditions. Nous demandons à l'État de revoir la population.
Ils sont venus anarquer la population sur son terrain. À ce niveau-là, il y a injustice là. C'est une concurrence qui n'a pas son nom.
Des démarches formelles ont été entreprises auprès des autorités de transition par l'Alliance des coopératives et mutuelles du Tchad afin de surseoir à ce projet qu'elle qualifie d'accaparement de terres de producteurs ruraux, mais sans succès. Diop Kodundo est le coordonnateur de ce regroupement.
Au moment où nous attendons une réponse concrète du gouvernement et du Conseil national de transition, le Premier ministre de transition 2, c'est-à-dire l'actuel, et son gouvernement nous plantent un couteau dans le dos en prenant une ordonnance qui entérine des propositions de création des zones économiques spéciales par Olam Araïs.
Pour le secrétaire général de la coopérative agro-silvopastorale, Dominique Matingarty, la réquisition de ces terres rend les populations plus vulnérables.
Dans les terres que les gens veulent arracher et remettre à disposition de l'abattoir, là, c'est la terre fertilisante où le taux de rendement est trop élevé dans ces zones-là. Donc, nous, les producteurs, on a aussi d'autres alternatives proposées à l'État de s'asseoir ou de sursoir ce projet qui est en train de vouloir mettre à genoux la production agricole dans la province du Gouy Central. Il y a des zones moins fertiles qui sont là qu'on peut proposer et en commun accord avec la population à exploiter au détriment de la terre riche où les gens sont en train d'exploiter aujourd'hui, que les gens partent arracher et mettre à disposition de l'abattoir. Nous, les producteurs, nous demandons pardon d'arrêter avec cette manière de précipitation pour tout gâter.
Le cabinet du ministère de Commerce s'intéresse de cette ordonnance vers qui nous nous sommes rapprochés pour avoir la version officielle du gouvernement n'a pas répondu à notre demande. La visite du président de la transition, Mohamed Idriss Déby, annoncée pour cette semaine à Mundu pour inaugurer ce complexe industriel, n'est pas encore confirmée. André Kotumbajingar, Mundu, dans le Logon occidental, pour VOA Afrique.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Kenya, un groupe d'étudiants a mis au point un moyen unique et efficace pour lutter contre la faim dans le monde. Il s'agit d'un amidon comestible fait à partir d'herbes qui peut être utilisé pour faire du porridge et de l'ougali. Un repas de base au Kenya. Les étudiants pensent que leur innovation contribuera à éradiquer la faim dans le monde. Les détails avec Thierry Kaoré.
Dans ce laboratoire de l'université Kabara, dans le comté de Nakuru de Nairobi, Faith Wadia, une étudiante de 24 ans et ses camarades travaillent sur des herbes qu'ils ont récoltées dans la nature afin de les rendre comestibles.
After harvesting the grass, we wash it.
Après avoir récolté l'herbe, nous la lavons pour enlever les impuretés. Après l'avoir lavée, nous la séchons. Après le séchage, nous la broyons pour en faire une poudre. Après le broyage, nous ajoutons nos enzymes. Ensuite, nous la mettons dans le réacteur. Une fois que la réaction a eu lieu, nous la retirons et la mettons dans la centrifuge où nous allons séparer l'amidon de la solution. Ensuite, nous la mettons dans le four pour la sécher. Après l'avoir retiré, nous effectuons un test d'amidon pour confirmer qu'il s'agit bien d'amidon. Après cette confirmation, nous ajoutons d'autres nutriments pour le fortifier.
Toutes les espèces d'herbes peuvent être utilisées tant qu'elles ne sont pas toxiques, mais les étudiants ont décidé de se spécialiser dans le bermuda et le seigle car ces graminées résistent à la sécheresse et aux inondations et leur récolte ne dure que 2 mois. Le produit final, qui sera une farine d'amidon, peut être utilisé en lieu et place de la farine de maïs ou du blé. Faith Wandia et ses camarades ont néanmoins testé leur produit pour s'assurer qu'il est bien comestible.
Nous avons déjà testé notre produit dans le laboratoire de l'université et nous avons confirmé qu'il est propre à la consommation humaine. Nous attendons maintenant l'autorisation des autorités compétentes avant de commencer la production de masse. Le coût de production d'un kilo de notre farine est de 19 centimes de dollars et elle sera vendue au détail pour 30 centimes.
Selon Stephen Otieno, expert en sécurité alimentaire, le monde est loin d'atteindre les objectifs d'éradication de la faim et de telles richesses sont les bienvenues.
Le monde n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs de développement durable visant à mettre fin à la faim et à la malnutrition d'ici 2030. C'est pourquoi il est très encourageant de voir les innovations des étudiants, notamment ceux qui transforment l'herbe en amidon comestible. Si vous regardez les tendances mondiales, vous verrez que la viande est également produite dans les laboratoires et c'est pourquoi je pense qu'il est très important que cette recherche et cette innovation soient encouragées parce que cela pourrait potentiellement aider à mettre un terme à la faim dans le monde.
Environ 811 millions de personnes souffrent de faim dans le monde selon les Nations Unies et de telles innovations peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la faim.
VOA Afrique en direct de Washington.
Comme chaque troisième lundi du mois de janvier, les Américains ont célébré hier la naissance du militant des droits civiques, Martin Luther King Jr., né le 15 janvier 1929 à Atlanta. À cette occasion, le président Joe Biden a effectué un pèlerinage historique à l'église baptiste King's Ebenezer. Biden dit que la démocratie est à un moment périlleux et que la vie et l'héritage du leader des droits civiques devraient être au centre des attentions. Pour le président des États-Unis, le rêve de Martin Luther King n'est toujours pas réalisé. Plus de détails avec Blanche Sanou.
It's a constant struggle between hope and fear.
S'exprimant à l'église de Martin Luther King Jr., le président Joe Biden a déclaré que le rêve d'égalité raciale et de justice du leader américain des droits civiques ne s'était pas encore réalisé et a renouvelé son appel à se battre pour l'âme de l'Amérique. Écoutons le président Joe Biden.
La bataille pour l'âme de cette nation est éternelle. C'est une lutte constante. C'est une bataille entre l'espoir et la peur. La gentillesse et la cruauté, la justice et l'injustice. Contre ceux qui se livrent au racisme, à l'extrémisme et à l'insurrection. Un combat mené sur les champs de bataille, des ponts, des palais de justice, des urnes et des protestations.
Martin Luther King aurait eu 94 ans cette année. Le président américain a rappelé le discours le plus célèbre de l'icône de la lutte pour les droits civiques et contre les discriminations raciales assassiné à Memphis en 1968. Le président Joe Biden a repris le refrain « J'ai un rêve » en exhortant les Américains à créer une communauté forte.
Nous devons choisir la communauté plutôt que le chaos. Sommes-nous les gens qui allons choisir l'amour plutôt que la haine? Ce sont les questions vitales de notre époque et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici en tant que président. Je crois que la vie et l'héritage du Dr. King nous montrent le chemin et nous devons faire attention. Je le fais vraiment.
Yolanda King, petite fille de Martin Luther King, a pris la parole lors des rassemblements contre la violence armée à Washington D.C., exhortant les Américains à faire entendre leur voix par des bulletins de vote et non des balles.
Are you ready? Êtes-vous prêt, jeune et vieux, êtes-vous prêt à être une génération qui se fait entendre par des bulletins de vote et non des balles? Beaucoup d'entre nous portent nos chaussures de marche depuis des années. Mais aujourd'hui, nous disons au Congrès, nous disons au lobby des armes à feu et nous disons au monde que cette fois est différente. Cette fois est différente parce que nous en avons assez. Nous en avons assez d'avoir plus d'armes à feu que de personnes ici en Amérique.
Des rassemblements sont organisés à travers les États-Unis pour célébrer le héros de la lutte pour les droits civiques et pour exiger que le Congrès adopte des modifications significatives des lois sur les armes à feu à la suite des récentes fusillades de masse dans le pays.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Fatouma Kalala Alimassi a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction au micro Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr.